Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Nous avons lu tout à l'heure ce texte, acte 16, qui est le début du second voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il a fait un premier voyage d'évangélisation avec comme partenaire Barnabas et comme aide Jean-Marc. Et c'est un premier voyage qui était assez court. On le voit ici en violet, comme ça. Donc un voyage assez court. Et voilà que le Seigneur prépare un deuxième voyage. Et ce matin, j'aimerais que nous apercevions que le Seigneur prépare notre route, prépare notre chemin de mission pour lui, prépare nos voyages et il prépare des rencontres. Ce matin, nous sommes quelques-uns et dans ces quelques-uns, nous sommes nombreux, par exemple, à venir d'un autre pays. Levez la main ceux qui viennent d'un autre pays ce matin. Ça commence à faire. La moitié quasiment des adultes de cette salle. Un voyage. Et le Seigneur prépare. Et le Seigneur prépare les gens que nous rencontrons. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Alors, déjà pour Paul, nous savons que ce deuxième voyage, il ne va pas le faire avec la même équipe, pas avec les mêmes personnes. Et on en a déjà parlé vis-à-vis de ce Jean-Marc qui a besoin de régler des choses avec Dieu. Et le fait qu'il ne parte pas en voyage avec l'apôtre Paul pour ce second voyage, Dieu va l'utiliser pour le faire grandir spirituellement. Mais du coup, pour que ça puisse se faire comme ça, ben Paul se retrouve sans partenaire. Mais le Seigneur prépare son voyage. Et au chapitre 15 déjà, nous avons vu un certain Silas. Il est venu parce qu'à la suite de la discussion qu'il y avait à propos, est-ce que les païens doivent suivre les traditions juives, le rite de Moïse? Est-ce qu'ils doivent se faire circoncire? Est-ce qu'ils doivent s'abstenir de manger du porc, etc. Et donc il y avait une discussion et à Jérusalem, les apôtres, les anciens ont pris la décision de dire non. Ça nous appartient en tant que dans notre héritage du peuple juif, dans notre témoignage envers le peuple juif, et dans cette période où le royaume messianique est toujours proposé. Nous, on continue avec ces symboles. Mais aux païens, on ne va pas leur imposer ces choses. Et donc, comme ça avait fait du trouble, de Jérusalem, on envoie des chrétiens solides, des chrétiens dont la réputation est établie pour être des émissaires vers les païens et leur transmettre, leur attester, de dire non, ne vous laissez pas troubler, ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus de notre part, ils vous ont troublé. Et voilà la décision que nous avons prise parce qu'elle a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et parmi ces émissaires, il y a Silas. Et Silas, une fois sa mission accomplie, une fois ce sujet traité, une fois que la lettre a été lue, de bien établir que non, les païens n'ont pas besoin de se faire circoncire, ils n'ont pas besoin de suivre la loi de Moïse. Mais normalement, Silas aurait dû rentrer chez lui et revenir à Jérusalem. Et ce n'est pas le cas. Au chapitre précédent, au verset 34, même si c'est un verset qui est absente des plus anciens manuscrits. Toutefois, il nous est précisé ici, au verset 34, « Toutefois, Silas trouva bon de rester. » Le voilà qui reste à Antioche. Il aurait dû rentrer chez lui, mais une intuition, quelque chose, et nous savons que ça vient du Saint-Esprit, quelque chose le fait rester à Antioche. Pour l'instant, la séparation de l'équipe Barnabas-Paul ne s'est pas encore faite. Et pourtant, Silas, il est poussé à rester. Parce que le Seigneur prépare les choses. Le Seigneur prépare notre chemin, il prépare notre voyage, il prépare nos compagnons, il prépare nos rencontres. Et le Seigneur a prévu. Il voit par avance. Et le Seigneur sait que il va falloir un compagnon de service pour Paul qui ne sera pas Barnabas. Et le Seigneur pousse Silas dans ses motivations à rester sur place et à être disponible. Est-ce que parfois le Seigneur ne nous pousse pas à être disponible? On ne sait pas exactement pourquoi. On dit, mais je vais être disponible. Je vais rester là. Ou plutôt, je vais aller à tel endroit. Je vais me rendre disponible. Je ne sais pas trop exactement pourquoi, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Le Seigneur prépare les choses. Et effectivement, Silas trouve bon de rester et quelque temps plus tard, Paul veut entreprendre ce second voyage. Il propose à Barnabas de faire route avec lui, mais voilà, ils ne sont pas d'accord sur le troisième membre de cette équipe, Jean-Marc. Et donc, ils ne vont pas faire équipe ensemble. Il y aura deux équipes différentes. Et Paul va donc choisir Silas. Silas est là, il est disponible, il est poussé par le Seigneur, et quand le besoin se fait ressentir, eh bien le Seigneur a déjà pourvu à ce qui était nécessaire. Paul choisit Silas. Mais voilà que, où est le troisième membre d'équipage? Autrefois, il y avait Jean-Marc pour les aider. Et Paul se rend donc à Lystre. Il y a déjà été dans son premier voyage où il a évangélisé et il y a une église qui s'est constituée. Il y a des croyants en Jésus, et parmi ces croyants, il y a une famille. Une famille avec une grand-mère, et puis sa fille, et puis le fils de cette fille. Eunice, Loïs et Timothée. Et cette famille est à la fois juive de par la maman et puis grecque païenne de par le papa. Timothée, il a donc ce mélange culturel et peut-être religieux. Mais quand Paul passe à Lystre, il donne sa vie à Jésus. Il accueille l'évangile. Et donc, lorsque Paul revient dans ce deuxième voyage, il trouve un jeune homme qui s'est solidifié dans la foi, qui s'est attaché au Seigneur et de qui on rend un bon témoignage. Ça, c'est formidable. Le Seigneur prépare des jeunes. Il prépare des jeunes fidèles, il prépare des jeunes de qui on peut rendre un bon témoignage, il prépare des jeunes sur lesquels des plus anciens vont pouvoir s'appuyer, qui vont pouvoir emmener avec eux. Le Seigneur prépare des jeunes, aujourd'hui encore, qui pourront servir dans l'Église et que le Seigneur utilisera pour l'avancement de son royaume dans les cœurs. Amen. Et nous nous mettons à la place de Timothée. Paul, lui, projette un voyage. Mais Timothée, lui, il n'avait jamais pensé voyager. En tout cas, comme Paul arrive, en quelques jours, sa vision des prochains mois va complètement changer. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui fasse la proposition de partir en voyage missionnaire aux côtés de l'apôtre Paul et de Silas. Il ne s'y attendait pas, c'était un tout jeune homme. Tout simplement, il aimait le Seigneur, il était attaché au Seigneur et il avait un bon témoignage. Et en quelques jours, sa vie va prendre un virage et il va partir dans un voyage aussi soudain qu'inattendu. Et parfois le Seigneur bouleverse comme ça nos vies. Parfois il y a des virages où le sens de ce qu'on projette de notre quotidien va tout d'un coup prendre une autre direction, soudaine et inattendue, mais que le Seigneur prépare. Est-ce qu'il vous est arrivé déjà ces virages soudains et inattendus, mais que le Seigneur prépare? On dit, mais Seigneur, tu veux m'emmener où? Tu m'embarques dans quoi? Timothée, fais confiance au Seigneur. Je pense que il y a dû avoir de la surprise, il y a dû avoir un peu de peur, de crainte, de stress. Mais on reconnaît quand c'est le Seigneur qui prépare les choses. Et le Seigneur nous demande simplement une réponse de confiance. Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, envoie-moi, nous dit la parole. Eh bien, c'est la disposition de cœur de Timothée. Seigneur, tu veux m'envoyer? Envoie-moi. Est-ce que le Seigneur veut vous envoyer aujourd'hui dans un travail, dans un ministère, peut-être soudain et inattendu, peut-être vous n'y réfléchissez pas depuis 5 ans ou 10 ans. Il y a des choses qui sont différentes, hein. L'apôtre Paul, il prépare, il projette son voyage, son ministère, il a été préparé de longue date, il a passé du temps aussi dans le désert, des années. Mais le Seigneur n'œuvre pas avec les uns comme il œuvre avec les autres. Le Seigneur n'a pas qu'une seule façon de procéder. Et peut-être le Seigneur nous a préparés spirituellement, on ne sait pas exactement à quoi, simplement on marche avec Dieu. Et puis, du jour au lendemain, il lance un appel. Est-ce que tu vas me suivre? Est-ce que tu vas me suivre dans ce travail, dans ce service, dans ce ministère? Peut-être dans cet appel missionnaire. Et le Seigneur appelle aussi des tout jeunes. Timothée n'a sans doute pas plus de 22 ans. Mais le Seigneur l'appelle. Alors, sachons être à l'écoute et partir à l'appel du Seigneur, s'il nous faut partir. Et on peut le faire avec confiance parce que le Seigneur prépare notre voyage. Il préparera ce qu'il faut. Quand le Seigneur appelle, il pourvoit. Alors voilà, voilà une équipe qui s'embarque. Le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul avec Silas est en pointillé rouge. C'est un voyage bien plus long. Et nous sommes surpris au verset 6 de ce verset. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. On se dit, mais attends, mais normalement le Saint-Esprit, il veut qu'on annonce la parole, oui ou non? Alors, comment se fait-il que ils sont en Asie, c'est ici, et en arrivant en Asie, c'est le Saint-Esprit lui-même qui les empêche d'annoncer la parole. Et ils doivent aller plus loin. Ils traversent donc la Phrygie et la Galatie. Donc la Phrygie qui est ici. Hop. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils arrivent près de la Mysie. Ici. Donc dans ce secteur. Hein. Si, c'est des. Ah non, ah, pardon. Ce ne sont pas les pointillés rouges, c'est. Ce sont les marrons. Oui, oui, oui. J'ai dit une bêtise. C'est ce voyage là, comme ça. Hein. Ici, celui-ci. Donc peut-être un virage ici, comme ça. Alors. Au verset 7, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Et qu'est-ce qui se passe là? Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Nous avons deux versets successifs. Un, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Et ensuite, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'entrer en Bithynie. Oui, le Seigneur prépare notre voyage, notre parcours, notre travail. Des fois, il y a des portes qui se ferment. On projette d'aller dans tel sens et on ne sait pas pourquoi ça ne se fait pas. Ça n'arrive pas à se faire, ça coince. Ça coince. Empêchement. Faisons confiance au Seigneur. Si notre cœur cherche sa volonté, si notre cœur est pur pour le servir, dans les chemins de vie que nous envisageons de prendre, eh bien s'il ferme une porte, c'est qu'il a un projet pour nous, dans un autre sens, dans une autre direction. Et on peut être étonné parce que en Asie en particulier, nous avons la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse n'a toujours pas été évangélisée. Paul n'est toujours pas allé à Éphèse. On peut se dire, mais est-ce que là, il n'y a pas un besoin d'annoncer la parole de Dieu? Et on sait que oui, puisqu'il le fera plus tard. Mais ce n'est pas encore le moment. Peut-être qu'à Éphèse, c'est pas encore mûr, c'est pas encore prêt. et le Seigneur le sait. Paul, lui, ne peut pas le savoir. Mais le Saint-Esprit le sait. Le Saint-Esprit sait quand est-ce que c'est le bon moment. Et pour le moment, ça n'est pas le moment. Et nous serons même surpris lorsque, dans son voyage missionnaire, il va passer ici comme ça, et il va finalement arriver à Éphèse, mais il ne va pas s'y arrêter pour évangéliser. Il va y passer un ou deux jours, il va rencontrer quelques chrétiens comme ça, quelques disciples, qui lui demandent de rester plus longtemps, qui lui demandent de prolonger son séjour. C'est le chapitre 18, verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant: « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit. Et ce n'est que dans son troisième voyage missionnaire que Paul s'arrêtera, et s'arrêtera longtemps, à Éphèse. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. C'était ses projets, mais le Seigneur bloque ses projets par deux fois. Est-ce que le Seigneur bloque certains de nos projets? Alors soyons attentifs et le Seigneur va nous montrer la direction. Parce qu'au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà, ils cherchent la volonté du Seigneur, ils cherchent la direction du Saint-Esprit, ils n'ont pas vraiment compris pourquoi ils sont bloqués, ils font confiance au Seigneur en disant: je suis bloqué dans mes projets, je suis bloqué dans tout ça, mais le Seigneur a quelque chose. Et le Seigneur permet cette vision, cette propulsion, et ils en concluent. Ils disent: finalement, j'ai rêvé cette nuit d'un Macédonien. Je crois que c'est le Seigneur qui nous appelle à aller en Macédoine. Et la Macédoine, c'est le début de l'Europe. Il faut traverser ici la mer et passer de l'autre côté. Et nous avons ici une ville que nous connaissons bien, c'est celle de Philippe, et nous aurons l'épître aux Philippiens. Une épître extraordinaire, nous en avons déjà parlé, parce que c'est l'épître où Paul parle de la joie. Vous vous souvenez de ça? La joie malgré la souffrance, la joie dans la souffrance, la joie malgré la persécution. Mais que se passe-t-il quand ils sont à Philippe? C'est notre chapitre. Eh bien, ils sont jetés en prison. Paul et Silas sont battus de verges, ils sont fouettés, ils sont emprisonnés. Et comment réagissent-ils? Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Nous avons deux serviteurs de Dieu qui, au sein de l'adversité, de la souffrance, dans la prison, après avoir été battus, alors qu'ils ont des plaies, que ça saigne, ils chantent les louanges du Seigneur. Le Seigneur a préparé leur voyage. Dans la préparation de ce voyage, croyez-moi, le Seigneur a préparé ce temps en prison. Nous, on se dit toujours, le Seigneur va nous préparer un hôtel 4 étoiles quand même dans le voyage. Le Seigneur va nous préparer un taxi, on n'aura pas besoin de, de marcher sous la pluie, on n'aura pas besoin de... Pas toujours. Dans le voyage que le Seigneur nous prépare, il y a des cases, comme pour le Monopoly, à la case prison. Mais la case prison avec le Seigneur, elle a toujours un but, elle a toujours un sens. Et le Seigneur a préparé cette prison pour que l'Église qui va naître dans la ville de Philippe et qui va connaître des temps compliqués puisse découvrir cette chose incroyable qui est la joie du Saint-Esprit au sein de la souffrance. Ça aurait été compliqué pour Paul de dire aux Philippiens, soyez toujours joyeux. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est quand même pas évident d'entendre ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est bien pour Paul de nous dire ça. Il est tranquille dans son hôtel 4 étoiles, tout va bien pour lui. Il ne connaît pas ce que nous vivons, il ne connaît pas ce que nous traversons. Eh bien, si. Paul va pouvoir dire et écrire plus tard, des années plus tard aux Philippiens en disant, vous vivez des temps difficiles, mais je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il est autorisé à le dire. Pourquoi ? Parce que quand il était dans cette région, qu'il était en prison, qu'il venait de se faire frapper, eh bien, il avait la joie du Saint-Esprit en lui. Ce qui fait qu'en pleine nuit, dans la prison, il pouvait chanter les louanges du Seigneur. La démonstration de cette vérité que la joie du Saint-Esprit ne dépend pas des circonstances. La joie du Saint-Esprit, elle est quand tout va bien, mais elle est aussi quand tout va mal. Et c'est un secret que le chrétien peut découvrir, peut croire et peut vivre. Et l'Église de Philippe sera encouragée au travers de la lettre de l'apôtre Paul, qui l'invite à s'accrocher, à trouver la joie du Seigneur, même dans la souffrance. Oui, le Seigneur a préparé dans ce voyage la case prison. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien pour plus tard. Mais ce n'est pas pour rien dans l'immédiat non plus, parce que dans cette case prison, il y a une rencontre que le Seigneur a préparée. C'est le gardien de la prison. Voilà un homme qui, en une nuit, il va vivre toutes les émotions. D'abord, il met Paul et Silas en prison, il ne prend pas de gants, il les met dans les ceps, au fer, etc. C'était la manière la plus forte de les garder. Et il n'y a pas de service d'infirmerie, hein. Ils sont dégoulinants de sang, mais c'est pas grave. Et puis voilà qu'il y a ce tremblement de terre. Et les portes de la prison, à cause du tremblement de terre, s'ouvrent. Et là, le gardien de la prison a très peur, parce que quand il arrive, il voit que les portes sont ouvertes. Il en déduit que, logiquement, les prisonniers se sont tous échappés. Et sous la loi romaine, quand un soldat laisse échapper des prisonniers, eh bien c'est la peine de mort, il le paye de sa propre vie. Et donc ce soldat romain, il se dit, je suis fichu. Et il prend son épée et il est prêt à se tuer. C'est le verset 27. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voilà quelqu'un qui traverse des émotions intenses. Et puis là, tout d'un coup, il entend quelqu'un qui lui crie « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Oh, tiens, voilà les prisonniers maintenant qui m'empêchent de me suicider. Alors là, il y a un bouleversement qui se fait dans son cœur, dans son âme. Il arrive vers l'apôtre Paul et voyez, en quelques instants, tout ce qu'il avait construit dans son cœur, dans sa vie, dans ses émotions, ça s'écroule et il se voit comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Il était à deux doigts de la mort, il allait se suicider. Et il arrive et il dit « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Le Seigneur peut bouleverser en un clin d'œil toute la construction de quelqu'un pour l'amener à l'Évangile, pour l'amener à prendre Jésus comme son maître et comme son berger. Amen. Et ce sont des rencontres que Dieu prépare. Paul et Silas ne pouvaient pas savoir que Dieu avait repéré ce gardien de prison et qu'il allait l'amener à la foi en Jésus. Ça, Paul et Silas ne le savaient pas, mais Dieu le savait. Il prépare des rencontres, même au travers des épreuves et de nos problèmes. Soyons attentifs aux rencontres que Dieu prépare. Lorsque nous sommes bloqués à tel ou tel endroit, lorsque nous traversons telle ou telle épreuve, disons-nous toujours « Bon, c'est désagréable et si j'avais pu choisir un autre chemin, je l'aurais choisi, mais je suis certain, j'ai confiance que le Seigneur prépare des rencontres. Il va en faire quelque chose à sa gloire. » D'ailleurs, nous revenons à la Macédoine et à cette vision. Je suis touché de l'expression de ce Macédonien que Paul voit en rêve. Il lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous. Secours-nous. » Ça me touche parce que c'est vraiment ce cri, ce cri du cœur d'un être humain et de tas d'êtres humains sans Dieu et sans espérance dans le monde. Eux, ils vont pas vous dire « secours-nous » parce qu'ils ne se rendent pas compte forcément qu'ils sont perdus, comme le geôlier. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est un cri au secours. Secours-nous. Et nous avons besoin de nous rendre compte que nos voisins, nos collègues, peut-être notre famille, les habitants de cette ville, les habitants de ce pays, il y a ce cri qui est « Secours-nous ». Et notre conclusion devrait être comme Paul concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Comment est-ce que Paul va secourir ? Annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, c'est venir au secours de nos voisins, c'est venir au secours de nos collègues. On ne sait pas qui c'est qui va accepter ou refuser. Il y a beaucoup de gens qui refusent. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas fini en prison en étant fouettés. Hein. Mais ce n'est pas grave. Pour ceux qui vont accepter la parole, qui vont se convertir à Jésus, oui, ces gens-là qui, dont le cœur, sans le savoir, criait au secours, le Seigneur les entend. Et le Seigneur prépare. Il prépare des serviteurs, il prépare des missionnaires, il prépare des chrétiens comme vous et moi qui allons pouvoir leur parler de l'Évangile. Est-ce que nous nous rendons compte que des cœurs dans notre pays crient « Secours-nous » ? Cela devrait nous pousser à ouvrir la bouche pour parler de Jésus aux autres davantage. C'est un appel au secours de cœurs qui sont perdus et qui ont besoin d'être sauvé. Un appel au secours. Alors Paul et Silas, ils arrivent donc à Philippe, ils traversent ce bras de mer, ils entrent en Europe, ils arrivent à Philippe. Et là, il y a une autre rencontre qui est préparée. Près d'une rivière. C'est la rencontre avec Lydie, une marchande de pourpre. Voilà une rencontre intéressante parce que c'est une femme qui était déjà intéressée par le message biblique. Ce n'était pas une juive, mais elle se réunissait avec d'autres juifs. C'était une craignant Dieu. Et elle avait besoin de découvrir le Messie qui était prophétisé. Et le Seigneur lui ouvre le cœur et elle donne sa vie à Jésus. Et que fait-elle après ? Dès qu'elle est baptisée, elle fait cette demande : si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Et à la fin du chapitre, lorsque Paul et Silas sortent de prison, après avoir été soignés par le gardien de la prison, au verset 40, quand ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. La maison de Lydie va devenir le lieu de rencontre de la première église de la ville de Philippe. Elle va ouvrir sa maison aux apôtres et ouvrir sa maison aux frères. Et voilà un ministère d'accueil, d'hospitalité, de service qui commence. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que vous voyez que quand il arrive à Philippe, il n'y a même pas un ancrage judaïque suffisant pour qu'il y ait une synagogue. D'habitude, quand Paul arrive dans une ville, il cherche la synagogue. Il y a déjà un lieu. Il y a déjà toute une communauté qui est là. Il y a du nombre. Et puis, il va annoncer le Messie. Et puis, il y a ceux qui reconnaissent Yeshua, le Messie. Et puis, il y a ceux qui ne le reconnaissent pas. Mais à chaque fois, ça fait de toute façon une communauté suffisamment grande, suffisamment forte pour que une église soit établie. Et il y a les ressources, j'ai envie de dire. À Philippe, c'est complètement différent. On a l'impression d'arriver dans un lieu un petit peu pionnier. Très peu de croyants. Très peu de gens qui s'intéressent. Quelques femmes qui se réunissent en plein air près d'une rivière. Et la faiblesse de ces moyens va susciter un ministère, celui de Lydie. On peut se dire, tiens, s'il y avait une communauté importante, s'il y avait déjà eu des personnes un peu établies, qui ont du poids, des hommes en particulier, des hommes juifs, qui donnent, parce que là, il n'y a que des femmes, mais des hommes juifs un peu influents, un peu établis, qui vont se convertir à Jésus, qui vont reconnaître en Jésus le Messie. Quel aurait été le ministère de Lydie? Je ne sais pas. Mais là où nous sommes interpellés, c'est que le Seigneur, eh bien, se sert aussi de la faiblesse pour susciter des services, des vocations. Peut-être je suis dans une église très grosse. Alors dans une église très grosse, il y a déjà 2-3 pasteurs qui prêchent, il n'y a pas besoin de plus. Oh là, il y a déjà des gens qui font la présidence, ils font ça très bien, il n'y a pas besoin de plus. Il y a déjà des gens bien calés qui font l'enseignement des enfants, pas besoin. Il y a déjà un orchestre, je ne te dis pas l'orchestre, moi j'ai que 3 ans de piano, qu'est-ce que tu veux que j'aille jouer mes 3 petites notes? Non, ils sont calés. Ça bouge l'orchestre, hein, c'est du solide. Hein. Il y a déjà quoi? Eh bien, à Philippe, il n'y a pas déjà. Philippe, tu as juste une rivière en plein air. Ah, les jours de pluie, c'est embêtant quand même pour se réunir. Hein. On a quelques dimanches, nous, où il pleut. Si on n'avait pas un toit au-dessus de la tête, on serait embêté. Hein. Alors, Lydie, elle est là. Elle est là et il y a un besoin. Un besoin dans la faiblesse, mais un besoin. Sa maison, je ne sais pas si c'est la plus grande de la ville, la plus luxueuse, mais en tout cas, elle est là et elle peut accueillir. Et elle ouvre sa maison, elle met à disposition du Seigneur les moyens qu'elle a. Le Seigneur prépare les choses. Et parfois, le Seigneur nous prépare à des ministères, à des services, à entrer dedans. Justement parce que s'il y avait déjà eu quelque chose d'établi, on ne l'aurait pas fait parce qu'on n'aurait pas senti l'appel et puis on ne se serait pas senti la stature. Dire non, ça, bof, y en a d'autres qui le font très bien et moi je ne suis pas capable. Et, bon, et puis quel besoin? Eh bien, le Seigneur parfois nous fait bouger, nous fait rentrer dans un service dans lequel on ne serait pas rentré. Mais on y rentre parce que il a fait en sorte que c'est dans la faiblesse. Et c'est parce que c'est cette faiblesse qui est là qu'on dit, Seigneur, il y a un besoin. Je ne serai peut-être pas le meilleur, je ne serai peut-être pas le plus... Mais qu'importe, je vais mettre à disposition les moyens que tu m'as donnés, même si c'est dans la faiblesse. Et le Seigneur nous fait rentrer à son service. Peut-être que ça sera pour jouer de la musique, là où on n'en aurait pas joué dans une grande église avec un super orchestre. Peut-être ça sera pour prendre part à la présidence, là où on n'aurait jamais osé prendre la parole dans une église de 400 personnes où il y a des gens qui parlent très bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, le Seigneur se sert de la faiblesse pour qu'il y ait des Lydies et d'autres qui, dans cette faiblesse, à cause de cette faiblesse, voient le besoin et se lèvent pour le Seigneur. Alors, croyons que le Seigneur prépare nos voyages. Croyons que le Seigneur prépare notre route et qu'il prépare les gens que nous allons rencontrer. Il a préparé Silas, il a préparé Timothée, il a préparé Lydie, il a préparé même cette femme qui était possédée d'un démon et qui va être le pivot pour qu'il finisse en prison. Sans cette femme qui ne va pas les suivre jour après jour et elle les suit et elle les fatigue, Est-ce qu'ils auraient fini en prison? Non. Mais le Seigneur l'avait préparé parce qu'il voulait qu'ils aillent au fin fond de cette prison. D'une part, pour que le gardien de la prison découvre l'évangile. Et le Seigneur avait préparé un petit tremblement de terre à l'occasion. Vous savez, vous, quand le prochain tremblement de terre va avoir lieu? Non. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur le prépare. Même un tremblement de terre, il le prépare. Et ça coïncide. Ça coïncide toujours avec le plan de Dieu. Et le Seigneur a préparé ce geôlier. Et nous pouvons donc avancer, frères et sœurs, avec confiance. Il y aura peut-être des routes bloquées. Nos projets vont devoir changer. On va devoir s'adapter. On va être parfois contrarié. On va parfois passer par la souffrance. Mais le Seigneur prépare notre voyage. Il prépare le départ et il prépare l'arrivée. Amen. Alors prions. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Tu as un projet, tu as un plan pour notre vie, un plan à ton service. Et tu prépares, Seigneur, les rencontres, tu prépares les compagnons de route. Prépare toute chose. Aide-nous à te faire confiance et à simplement chercher à t'honorer dans nos vies. Mais être prêt aussi à répondre à l'appel que tu nous lances, et parfois, lorsque c'est un appel soudain et inattendu, comme pour Timothée, que nous puissions te répondre, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Merci pour l'encouragement que tu promets et que tu peux donner dans notre voyage, même dans les moments difficiles. Merci pour Paul et Silas qui ont chanté dans la prison et qui sont pour nous la preuve que le fruit de ton esprit en nous, Seigneur, c'est aussi la joie, même dans les temps difficiles. Alors, Seigneur, que nous puissions être attentifs à la direction de ton esprit pour nos vies, et que nous ne passions pas, Seigneur, à côté des rencontres que tu veux que nous fassions, parce que c'est toi qui les as préparées. Encourage-nous à évangéliser. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, que c'est un cri au secours qui émane de cœur autour de nous-mêmes s'ils n'en ont pas encore conscience. Que nous puissions parler de toi en étant des secouristes. Au nom de Jésus. Amen.